le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Voici les titres. La MONUSCO offre ses bons offices pour les prochains enjeux électoraux et souhaite un consensus de toutes les forces politiques et sociales congolaises. Charles Bambara, porte-parole intérimaire de la mission onusienne, l'a souligné mercredi au cours de la conférence de presse de la mission de l'ONU. C'est l'actualité de ce dimanche. Pas d'épidémie de la rougeole ni de retour de polio dans la ville de Kinshasa. Le programme d'action RDC UNICEF l'a constaté au cours de la revue du premier semestre de 2014. Dans ce magazine, la représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC nous donne les détails sur cette revue. C'est l'invité de l'émission. Un dernier titre, le gouvernement s'engage dans la lutte contre la traite et le trafic dont seraient victimes des Congolais à l'étranger et dans le pays. RDC implique l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dans sa lutte. Une campagne prévue à cet effet démarrera prochainement par la province du Sud Kivu. Monsieur Laurent Debeuc, chef de mission de l'OIM en RDC, vous en dira plus. Voilà pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois de plus, bonjour et bon dimanche chez vous. Quelle analyse fait la MONUSCO du débat autour de la révision ou non de la constitution actuelle de la RDC? Question posée par la presse mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies au quartier général de la MONUSCO. Voici la réponse de Charles Bambara, directeur de la division de l'information publique et porte-parole intérimaire de la MONUSCO. Ses propos sont recueillis par Honoré Missengakalala.
Il faut dire que la MONUSCO, bien sûr, s'inscrit dans le juste mandat que lui donnent les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le représentant spécial du secrétaire général, M. Martin Kobler, a déjà engagé ce que vous savez être les bons offices entre les différentes parties, entre les différents leaders politiques de ce pays, appuyé d'ailleurs en cela par l'ensemble des sections de la MONUSCO, notamment la section des affaires politiques de la MONUSCO. Et différentes missions de bons offices vont continuer à la demande, bien sûr, des différentes parties politiques ici en RDC, mais aussi, comme je dis, cela s'inscrit en droite ligne des missions confiées à nous par le Conseil de sécurité. Nous espérons que ces différentes concertations menées à ce niveau pourront amener la classe politique à s'entendre autour d'un même projet, d'une même vision politique pour le devenir, le développement de ce pays. C'est ce que nous pouvons dire et nous allons continuer en tout cas cet exercice pendant le temps qu'il faudra.
Même discours par rapport à cet autre débat autour du calendrier électoral de la CENI qui divise encore les forces politiques et sociales de la RDC. Charles Bambara nous en dit plus.
La MONUSCO, par la voix de Martin Kobler, s'est prononcée à maintes reprises. Nous encourageons le dialogue entre les différents partis politiques et nous espérons effectivement qu'il y aura entente, qu'il y aura au-delà des bons offices engagés par le bureau de M. Martin Kobler, que cela débouchera sur une sorte de consensus autour de tous ces points. Et c'est vrai que la communauté internationale demande un mandat. Nous sommes sur le terrain. Nous avons, de façon très concrète, envoyé une équipe de la MONUSCO au sein même de la CENI. Cette équipe travaille jour et nuit pour apporter de façon très concrète le soutien de la MONUSCO aux différentes opérations, notamment lors, par exemple, des élections partielles qui se sont récemment déroulées. La MONUSCO a effectué le transport du personnel électoral, par exemple, sur place. Les membres de l'Assemblée plénière de la CENI également ont été transférés. Le matériel a été transféré. Tout cela, il ne faut pas minimiser tout cet appui de la MONUSCO qui est sensible. Et nous allons continuer à le faire. C'est vrai que c'est là que le début du processus. C'est vrai que la discussion, la réflexion reste engagée. Et nous souhaitons que cela puisse déboucher vraiment sur un consensus au niveau national.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains en RDC, le gouvernement et l'OIM prévoient une campagne de sensibilisation contre ces fléaux. Nadine Foula a reçu pour vous le chef de mission de cette agence onusienne, Laurent Debeuc, pour faire le point sur cette campagne. C'est notre décryptage. Suivez plutôt leur entretien.
Bonjour monsieur Laurent Debeuc.
Bonjour.
En mi-juin dernier, vous êtes allé solliciter une implication du ministre de l'Intérieur dans une campagne que vous devez lancer contre la traite et le trafic humain en RDC. Cette campagne est déjà lancée?
Alors, la campagne n'est pas lancée, elle est en préparation avec effectivement le ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas sollicité leur implication, je voudrais dire que c'est plutôt l'inverse. C'est le chef de l'État a demandé à son gouvernement de mettre en place un comité national pour lutter contre la traite, ayant reçu un certain nombre de documents ou de preuves que les Congolais à l'extérieur étaient exploités. Et donc le ministre de l'Intérieur était le chef de file de cette commission nationale et j'ai été confirmé notre engagement à soutenir le gouvernement dans cette approche.
Et quelles sont les provinces concernées ?
Alors c'est une campagne nationale, mais le comité national a décidé de lancer la campagne d'abord à Bukavu, pour le sud Kivu, suivi directement par le nord Kivu, à Goma, et puis à Kinshasa. Mais l'entièreté du territoire est concernée.
Pourquoi vous commencez par la partie Est ? C'est parce qu'elles sont les plus concernées ou bien il y a une autre raison ?
Non, c'est un choix du comité en réflexion avec les différents ministères et effectivement c'est un lieu où ils se rendent compte qu'il y a plus de potentialités ou de rapports qui me font montre de traite des personnes, que ce soit dans le secteur minier, que ce soit à travers les frontières, vers l'extérieur, à l'est du pays.
Quelles sont donc les zones géographiques et les groupes humains ou sociaux qui sont le plus exposés à ces phénomènes ?
Alors, la traite ou le trafic touche l'entièreté des couches sociales de la société, tout âge et toute personne. Donc ce sont aussi bien des enfants, les femmes, les hommes, des jeunes, des personnes plus âgées, surtout des personnes qui sont dans une certaine catégorie de vulnérabilité, ou bien les jeunes qui croient ou sont plus naïfs de croire dans les promesses de certains trafiquants qui peuvent leur promettre une vie meilleure, mais ils tombent en fait dans la trappe de la traite.
Pouvez-vous aider nos auditeurs à comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre les deux concepts, traite des personnes et trafic humain ? Il y a une différence ?
Il y a une très grande différence en effet. Ça repose d'abord sur des définitions qui ont été mises en place par les Nations Unies dans le cadre de conventions relatives à la traite des personnes pour réprimer la traite et aussi un autre protocole qui définit le trafic illicite de migrants. Donc on parle de traite d'êtres humains et de trafic illicite de migrants. Alors la principale nuance est le fait que le trafic illicite de migrants, ça concerne un transfert ou le passage d'une frontière. Donc ce sont des personnes qui volontairement paient des trafiquants pour faciliter le passage d'une frontière de manière illégale. Donc là, la personne est consciente qu'elle va agir de manière illégale et fait recours à une personne qui va l'aider à traverser cette frontière. La traite, par contre, est un mécanisme qui est bâti plutôt sur la tromperie. Donc ce sont des trafiquants qui vont faire des promesses. Ils peuvent aussi utiliser la coercition ou le kidnapping pour prendre des personnes à des fins d'exploitation. Ça ne nécessite pas nécessairement la traversée d'une frontière. Donc vous avez des phénomènes de traite au sein même des pays, d'une province à une autre, d'une ville à une autre. Mais c'est toujours une intention de profiter de la personne, de lui confisquer sa liberté et d'en abuser. Donc elle perd toute liberté. Alors on remarque dans certaines situations que des personnes qui ont décidé de traverser une frontière illégalement, donc qui sont des personnes qui utilisent le trafic illicite, quand ils se retrouvent dans un autre pays, peuvent, parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, tomber dans les mains de trafiquants qui vont les exploiter. Donc il y a un lien, si vous voulez, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc ce sont des distinctions importantes, c'est la traversée de la frontière et le fait qu'il y ait dans un cas le trafic illicite, et dans l'autre, il y a toujours volonté d'exploitation de la personne dans le cadre de la traite.
Ce phénomène est une réalité ici en RDC.
Il y a différents rapports qui montrent qu'il y a des situations effectivement et de traite et de trafic dans les deux cas. Malheureusement, la porosité des frontières ou l'étendue du territoire montre qu'il est assez simple de pouvoir traverser une frontière. Alors il y a des passages plus difficiles, donc il y a des mécanismes d'achat de faux papiers, etc. pour passer les frontières. Donc dans le trafic illicite, c'est assez récurrent et courant dans certaines parties du territoire en particulier, comme on le voit les traverser vers l'Angola ou bien vers d'autres pays qui sont attractifs ou la volonté d'atteindre d'autres pays comme l'Afrique du Sud. Mais la traite aussi fait partie de certains rapports et on note qu'en travaillant avec des institutions comme la Direction Générale de Migration ou la Police Nationale Congolaise aux Frontières, qu'il y a des cas de traite et notre organisation a des bureaux un peu partout dans l'Afrique, nous rapporte certaines situations de victimes de traite et nous demande de les assister au retour dans le pays et à leur réinsertion. Il n'y a pas encore, si vous voulez, une recherche systématique sur l'ampleur du phénomène. Mais je serais étonné que la RDC soit l'unique pays au monde où ce phénomène n'est pas malheureusement visible. Donc nous travaillerons avec les autorités, c'est notre intention justement de pouvoir éveiller les différentes institutions, pas seulement gouvernementales, mais aussi la société civile. C'est très important de les impliquer dans la compréhension et la population, et c'est tout l'objet de la campagne.
Revenons alors sur la campagne proprement dite. On peut déjà avoir une idée fixe sur le thème, le moyen utilisé, le groupe ciblé, la date, la durée.
On n'a pas établi réellement une durée. On voudrait un peu motiver toutes les institutions à y contribuer. On a choisi un thème en coopération avec différentes institutions gouvernementales. Le thème, c'est « Au-delà des frontières, il n'y a pas que le bonheur ». Et également un autre thème qui est « Libre au départ, otage à l'arrivée ». Et donc ces deux thèmes, c'est un peu de leitmotiv. On a produit un certain nombre d'outils, de campagnes, des affiches, des prospectus, un certain nombre de petits gadgets qui permettent de rappeler l'importance de penser qu'il y a effectivement des gens qui ont de mauvaises intentions et qu'on peut tomber dans les trappes de trafiquants. Alors, donc il n'y a pas de durée en particulier, on va soutenir le gouvernement. C'est quelque chose qui se met en place en parallèle avec d'autres activités qui doivent se faire, entre autres le développement de cadres administratifs et juridiques qui permettent de punir les trafiquants. Comme l'a recommandé le protocole spécifique sur la traite, il y a des actions nécessaires à faire pour que le cadre juridique soit en place pour non seulement prévenir, mais aussi punir les personnes qui organisent la traite. Et il y a en même temps aussi toute la mobilisation de la société civile pour donner une protection aux victimes. Et là, ça nécessite une coopération entre la société civile, les ONG, ONG de développement et les autorités du pays.
Autre chose à ajouter ?
Je dirais que je suis heureux que le gouvernement ait pris cette initiative. Malheureusement, dans les pays post-crise, les gens peuvent malheureusement être naïfs et croire que le bonheur est ailleurs. Et donc, il y a ce profit qui est fait par des gens de mauvaises intentions. Et je crois qu'il est important que tous les Congolais se battent pour leur propre dignité et en même temps se battent contre les trafiquants qui profitent de cette naïveté.
Monsieur Laurent Debouc, je vous remercie.
Je vous remercie également. Bonne journée.
Quelques nouvelles en plus bref. La journée internationale de l'amitié, c'était mercredi 30 juillet dernier. Dans son message à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé les États du monde à se tendre la main pour, je cite, « prévenir la violence et poser les fondements à long terme d'une paix durable ». Fin de citation. Ban Ki-moon a souligné que cette journée était célébrée à un moment marqué par la guerre, la violence et la méfiance généralisée dans plusieurs parties du monde. Comment impliquer les femmes leaders dans les questions de protection? C'était l'objet de la rencontre organisée la semaine dernière à Shabunda, au sud Kivu, par le bureau Jean de la MONUSCO. Cette rencontre a réuni au total une trentaine de personnes, dont 24 femmes qui représentaient diverses organisations féminines locales. L'information a été livrée mercredi dernier à la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Quel bilan faire du plan d'action UNICEF-RDC pour les 6 premiers mois de l'année dans la ville de Kinshasa? La semaine dernière, l'UNICEF et ses partenaires congolais, gouvernementaux et de la société civile ont fait le point pendant 3 jours des actions entreprises pendant cette période en faveur des enfants. Madame Sylvie Fouet, elle est représentante adjointe de l'UNICEF, c'est elle notre invitée. Elle revient sur ses travaux dans cet entretien avec Honoré Missingakalala.
Madame la représentante, bonjour.
Bonjour.
L'UNICEF, votre agence et ses partenaires ont procédé au cours de la semaine passée la revue semestrielle du programme d'action RDC UNICEF concernant la ville de Kinshasa. En quoi consistait cette revue?
Alors, c'est un accord de coopération que nous avons tous les 5 ans signé avec le gouvernement et tous les 6 mois, nous faisons un état des lieux. Et donc, ces 3 derniers jours étaient la revue de l'état de plan d'action de la province de Kinshasa.
Pourquoi seulement Kinshasa?
Alors, en effet, c'est la dernière ligne droite, je dirais, d'un exercice qui a commencé depuis un mois. C'est dans toutes les provinces, en réalité, et cette semaine, ce sont les 2 dernières, c'est Maniema et Kinshasa. Donc, c'est simplement en simultané. Ces 2 provinces sont les dernières de la liste des 11 provinces.
Madame Alors, quels sont les objectifs visés par l'UNICEF en procédant à cette revue périodique?
C'est un état des lieux de regarder ensemble un peu les objectifs qu'on s'était fixés et, si besoin, on a des actions correctrices à faire. C'est pour ça qu'on fait ça en milieu d'année et on le fera effectivement aussi en fin d'année. Et l'exercice aussi est une opportunité de partir de la base sur le terrain pour informer les décideurs dans les provinces et ensuite les décideurs au niveau national. Donc c'est un exercice de façon très ascendante.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les résultats concernant les travaux de Kinshasa?
Alors je dirais dans le premier axe, un des grands axes qui concerne toutes les maladies tueuses de l'enfant, on a effectivement pour la province du Kinshasa continué et engagé une grande campagne de vaccination de plus de 2,8 millions d'enfants entre 6 mois à 10 ans en juin dernier, couplée avec la polio. Alors c'était en même temps le déparasitage également et la vitamine A. Donc on couplait les campagnes de vaccination avec le besoin de aussi amener les aliments nutritifs. Alors le résultat c'est que pour l'instant la province de Kinshasa, on croise les doigts, n'a pas d'épidémie de rougeole malgré le fait qu'il y en a dans d'autres provinces. Et on n'a pas de retour de polio dans la province de Kinshasa. Donc ce sont deux éléments importants. L'autre, c'est quand même des améliorations à faire. La couverture, et selon l'enquête qui est en cours, démontrerait que la vaccination reste quand même à améliorer. Donc même si on n'a pas d'épidémie, on a des taux de couverture à améliorer. Et là, on le fait avec le renforcement de la vaccination de routine. Pour l'eau, l'hygiène, l'assainissement, les villages et écoles assainis se transfèrent dans la province de Kinshasa plutôt dans pré-urbain et péri-urbain. Et donc dans les derniers 6 mois, plus de 300 000 personnes ont eu accès à l'eau et à l'assainissement dans le pré-urbain, notamment dans les quartiers de Nsélé et de Njili. Et c'est un effort qu'on doit continuer à échelle. Donc l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, très important. Et l'enregistrement des naissances, c'est couplé avec les campagnes de vaccination. Plus de 80 000 enfants ont été enregistrés qui étaient hors du circuit, bien que le fait que 2 enfants sur 3 restent non inscrits. Mais on va de l'avant. Pour l'éducation, le diagnostic de l'éducation du système de la santé a démontré l'importance d'envoyer des enfants à l'école à l'âge légal. Donc il y a une grande campagne qui a été menée dans la rentrée 2013, mais on voit les résultats maintenant, en juin, et on va y revenir pour la prochaine rentrée. Plus de 125 000 enfants ont été inscrits à l'école à temps, et notamment parmi les plus vulnérables, grâce à une grande campagne qui permettait l'inscription à l'école primaire de façon inclusive. C'est une opportunité pour moi, la rentrée va venir. On va lancer le 9 août avec le ministre la campagne d'inscription à l'école primaire, et donc c'est une opportunité pour ressouligner l'importance d'inscrire les enfants pour qu'ils accèdent à l'école primaire à l'âge légal, qui est, je le rappelle, 6 ans. Le défi dans la province du Kinshasa demeure, on est en train de regarder les éléments, c'est 6% d'enfants redoublent, donc il y a encore un défi dans la qualité, et 3 enfants sur 5 échouent au TENAFEP. Donc même si on a encouragé à accéder à l'école, on a encore des défis de la qualité et de compléter l'école. Troisième volet, la protection de l'enfance. Nous avons, je dirais, le choix sur la province de Kinshasa et en particulier avec la ville de Kinshasa, c'est évidemment les enfants vulnérables, notamment les enfants de la rue. Alors la façon de supporter l'aide auprès de ces enfants, c'est de supporter la plateforme des services et donc des partenaires qui rendent des services en réseau sur Kinshasa. Et également le système de renforcement, ce qu'on appelle du référencement, et là ça toute la justice pour les enfants, pour éviter qu'ils soient incarcérés et donc de les prendre avant et de donner des mesures alternatives. Et donc nous renforçons tous les tribunaux pour enfants. La ville de Kinshasa est passée de 1 à 5 tribunaux pour enfants ou chambres où il y a des juges pour enfants, qui est très important, on va de l'avant. Et le dernier volet dans la protection dans la ville et la province du Kinshasa, c'est la prévention, donc de renforcer les communautés à protéger les enfants et notamment à travers les communes et les quartiers. Et un bon exemple qui s'organise, c'est le quartier de Bumbu.
Je peux revenir à l'éducation. Est-ce que vous avez essayé d'analyser les causes du taux élevé des échecs au TENAFEP?
Alors, une des choses qu'on est en train de regarder, qui est effectivement la qualité de l'enseignement, et également le fait que les enseignants ont énormément d'enfants et donc la difficulté à suivre chacun à son rythme, et donc l'importance de renforcer certaines matières, et donc d'aider les enfants qui vont moins vite ou qui ont un rythme plus difficile de les rattraper. Effectivement, d'équiper les enseignants pour leur donner les meilleurs moyens pour avoir un enseignement de qualité.
Madame, vos revues sont périodiques, c'est chaque année. Est-ce que vous avez eu l'impression que les leçons tirées des revues précédentes ont été prises en compte dans l'exécution du programme pendant le premier semestre 2014 qui vient d'être examiné.
Alors j'en prendrai trois qui me semblent critiques. La première, effectivement, c'était l'importance, bien sûr, de continuer les campagnes, mais également de renforcer les systèmes de routine. Donc sans arrêter d'être vigilant pour la polio ou la rougeole, mais aussi de renforcer le système régulier. Et donc ça, c'est cette agilité, et je crois qu'on a commencé à bien le faire, mieux le faire en 2014. Le deuxième, c'est effectivement l'accès à l'eau et l'assainissement est important et on doit aller à l'échelle. Et donc de commencer à renforcer notamment le nombre, alors dans le périurbain, le nombre de communautés ayant accès à l'eau et à l'échelle, à l'eau et l'assainissement, de 1 à 6. Et donc ça, c'est maintenant l'effort. Et le dernier, c'est, vous en parliez, l'accès à l'éducation sans oublier la qualité. Et donc c'est ce défi, on a beaucoup beaucoup mis sur l'accès, mais ne pas oublier la qualité. Donc on va de l'avant les prochains 6 mois.
Est-ce que les enfants ont été impliqués dans ces différents secteurs? Parce que c'était l'une des recommandations de l'année passée.
Alors nous avons effectivement, et je vous confirme, dans cette revue de la province de Kinshasa, 2 enfants, donc Carmel, et vous pouvez avoir l'opportunité de le rencontrer. Et c'est à travers le réseau des enfants reporters, systématiquement, donc on les implique d'abord dans les revues, et deuxièmement sur les campagnes. Donc on a eu plus de 500 enfants reporters impliqués dans toute la RDC, dans les campagnes de vaccination, dans les campagnes d'éducation à la paix, dans les campagnes de l'inscription et de retour à l'école. Sur la province de Kinshasa, c'est 60 d'enfants. J'avais 2 autres choses que je voulais vous mentionner sur la participation des enfants. La voix des enfants est très importante dans notre travail et dans la façon dont nous avançons. Donc nous avons promu une émission avec les enfants sur les RTNC qui est La Voix des Enfants, mais je voudrais vous inviter à aller visiter leur site à travers un blog, à travers l'équipe Pays UNICEF qui est le blog PonaPana, c'est www.ponapanabana.com. L'autre élément, c'est non seulement au Congo, mais nous essayons de promouvoir les enfants sur des sommets internationaux. Et nous venons d'avoir Merveille de la province de Kinshasa qui est allée représenter le Congo au sommet international de Londres sur la lutte contre les mariages précoces.
Merci Madame la représentante.
Merci beaucoup.
Notre nouvelle des provinces nous amène à Mbujimayi au Kasaï oriental où s'est tenu cette semaine un atelier d'élaboration du plan intérimaire de l'éducation pour cette province. Tous les acteurs éducatifs de la place se sont donc retrouvés autour de l'UNICEF à cet effet. Les détails avec François Chibenji.
Il s'est agi pour les responsables de l'éducation dans les 3 provinces scolaires du Kasaï oriental de dresser un état des lieux dans ce secteur. Les 43 participants qui sont des services de contrôle et paie des enseignants, de l'Association nationale des parents d'élèves, des syndicats des enseignants, des inspections principales provinciales et des divisions de l'EPSP ont examiné la question de l'accès à l'école et à l'équité. Ils ont réfléchi sur la qualité de l'enseignement dans la province ainsi que sur la question de la bonne gouvernance dans ce secteur éducatif. Les résultats de ces assises vont servir dans un premier temps à enrichir les assises nationales de promotion scolaire et puis la revue à mi-parcours du plan intérimaire de l'éducation dans le cadre de la coopération RDC-UNICEF, revue qui va se tenir dans la deuxième moitié du mois d'août 2014. L'objectif poursuivi par l'UNICEF dans l'élaboration de ces plans intérimaires de l'éducation est d'obtenir les besoins et voir ce qu'il faut faire pour améliorer les niveaux de l'éducation à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au Kasaï oriental. Mbujimayi, François Chibenji, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question aux Nations Unies a été posée à partir de Goma, nous sommes dans le Nord Kivu. Elle porte sur la situation des pêcheurs congolais sur le lac Kivu que la marine rwandaise serait en train de malmener tous les jours. Écoutez la question ainsi que la réponse du colonel Félix Sebas, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Il ne se passe pas des jours sur le lac Kivu sans que le pêcheur du lac Kivu ne soit arrêté par la marine rwandaise. Cette situation perdure. Les autorités locales ont essayé de plaider. Il n'y a pas de succès, visiblement. Ma question est de savoir si la MONUSCO ne peut pas mener la diplomatie pour rétablir ces pêcheurs dans leurs droits.
Au niveau du lac Kivu, comme vous le savez, la force est présente. Elle est présente, elle mène des patrouilles sur le lac Kivu. Maintenant, concernant probablement les démarches qui doivent être effectuées dans le cadre de bons offices, ou en tout cas dans le cadre de contacts à mettre en œuvre avec les autorités congolaises, je pense que ceci ne relève pas de la force. Peut-être que ce sont d'abord les autorités congolaises qui sont interpellées sur ce point-là. Peut-être aussi que la MONUSCO pourrait donner un coup de main pour faire avancer ces pourparlers-là, afin que de tels incidents ne se reproduisent pas, ou alors que ces incidents trouvent des solutions apaisées chaque fois que ces pêcheurs seront arrêtés. Parce qu'il faut aussi convenir que je n'ai pas d'éléments entre les mains pour savoir si ces pêcheurs ont trépassé les limites frontalières sur le lac Kivu avec le Rwanda.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Liliane Egouyeti, je suis célibataire. J'ai fait un bac B au collège La Flèche. J'ai fait le cycle 1 de l'École nationale d'administration, diplomatie et relations internationales. J'ai fait une maîtrise de droit privé à l'université d'Abomey-Calavi et un diplôme d'études approfondies en droit de l'homme et démocratie. Après ma maîtrise de droit, j'ai géré un restaurant pendant 2 ans où j'ai eu l'occasion d'apprendre la gestion du personnel, un certain nombre de choses dans le milieu professionnel qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Ensuite, j'ai travaillé avec une institution nationale, privée, qui faisait de l'appui aux artisans, le bureau d'appui aux artisans qui était financé par la coopération suisse, où on faisait de la formation pour adultes en développement de micro-projets et de micro-entreprises. Et en juillet 2006, j'ai rejoint les Nations Unies en tant que volontaire des Nations Unies à la division des droits de l'homme de l'époque et au bureau conjoint des Nations Unies aujourd'hui. J'ai travaillé successivement dans la province du Nord Kivu, à Goma, Butembo, Beni, dans la province du Katanga et au Nord Katanga à Kalemie, dans la province orientale à Kisangani et à Dungu, et au Sud Kivu où je suis encore actuellement, à Bukavu. Je suis officier des droits de l'homme depuis 2006 que j'ai intégré la MONUC puis la MONUSCO. Et en tant qu'officier des droits de l'homme, je participe au mandat général du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui est de veiller et de monitorer la situation des droits de l'homme en RDC. C'est une tâche immense comme vous pouvez l'imaginer. Dans mes attributions d'aujourd'hui, je suis en charge de la lutte contre l'impunité. Je travaille essentiellement à l'organisation des audiences foraines, des enquêtes conjointes judiciaires avec les autorités judiciaires, militaires et civiles. Je travaille également à la protection des civils et je fais le monitoring, par exemple, des opérations militaires conjointes pour s'assurer que dans la lutte pour la paix et la sécurité, les populations congolaises ne sont pas affectées par les effets négatifs des affrontements militaires. Je travaille également sur la formation de nos troupes, casques bleus qui viennent, comment leur expliquer en quoi consiste notre mandat, et leur expliquer comment nous travaillons ensemble, en quoi ils peuvent nous être importants avec les MILOPS pour leur expliquer qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain et sur les éléments sur lesquels ils doivent insister lorsqu'ils font leur travail d'observation militaire. Lorsque j'ai du temps libre, je lis, je fais la cuisine, je fais un peu de sport. Je fais quelques recherches sur les sujets qui m'intéressent. J'adore écouter de la musique. J'aime beaucoup la musique congolaise. Avant d'arriver en RDC, j'écoutais beaucoup la musique congolaise, mais en RDC, je suis complètement obnubilée par le travail, occupée par le temps que je donne à lutter pour les droits de l'homme. Et je crois que j'ai perdu l'habitude d'écouter de la musique congolaise, mais je vais reprendre. Je fais du vélo d'appartement, et j'aime beaucoup nager également. Ce que j'aime manger, c'est l'yam pilé avec la sauce d'arachide. Mais en RDC, le mets que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, c'est le liboké de poisson avec du makemba. J'adore ce mets. Mes projets d'avenir, je suis entrée aux Nations Unies en rêvant d'occuper de très grandes fonctions pour avoir l'occasion d'être à un poste de responsabilité et apporter ma touche à la construction d'un monde meilleur. Surtout aux Nations Unies, j'ai eu l'occasion de voir que quand il y avait de volonté, on pouvait utiliser les moyens pour réaliser de grandes choses. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Deux rendez-vous à inscrire dans votre agenda de la semaine du 3 au 9 août. D'abord le 7 août, c'est la journée internationale de l'éducation. Et puis le 9 août, c'est la journée internationale des populations autochtones. Le magazine des Nations Unies vous informera, comme à l'habitude, des activités organisées par les agences de l'ONU à cette occasion. C'est fini pour ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Nicole Ngaka a supervisé cette émission et Honoré Missenga au reportage. Lydie Bettina, moi, vous la présentez et Alain Goy la mise en onde pour vous. L'émission est à réécouter sur notre site internet radiookapi.net. Merci de votre fidélité et à la prochaine.